Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Coup de cœur des bibliothécaires. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Annie qui va nous parler d'une autobiographie musicale, Claudie qui va nous parler d'un roman de littérature générale, Lison qui va nous parler d'un documentaire jeunesse, et moi-même, Kevin, qui vais vous parler d'un album de musique. Tout de suite, je laisse la parole à Annie.
Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un coup de cœur pour une autobiographie passionnante d'un musicien et chanteur qui a pour moi une place à part dans la chanson française. C'est William Scheller. Donc, son autobiographie s'appelle William et elle est sortie au printemps 2021. Ce gros livre de 490 pages plus 20 pages de photos, est l'histoire d'une drôle de vie et d'une époque fort intéressante, abordée de façon simple et naturelle, facile et agréable à lire. Cette autobiographie est haletante, elle nous conduit des quartiers de Paris à Montfort-l'Amaury, en passant par les États-Unis, la Finlande, le Japon, le Brésil, et un peu partout dans d'innombrables salles de spectacle. C'est aussi et surtout l'histoire d'une quête personnelle, la recherche de son vrai père aux États-Unis, qu'il découvrira après qu'il eut disparu. Une histoire folle, puisque sa mère lui avoue très tardivement, sur son lit de mort, l'identité de son vrai père, jeune soldat américain venu libérer Paris. Voir pour la première fois le visage de son père est une émotion qu'aucun mot n'a le pouvoir de restituer, nous dit William. Il découvrira une sœur, un frère outre-Atlantique et toute l'histoire de sa vraie famille. Après le récit de son enfance peu banale, entre une mère fantasque, un faux père américain et escroc, et une grand-mère attentive, William Scheller nous emmène et nous fait partager ses rencontres de toute nature. Artistique, avec quelques grandes figures, Françoise Hardy, qui l'incitera à écrire ses mémoires, Catherine Lara, Nicoletta, Joe Dassin, et j'en passe, et bien sûr Barbara. Barbara qui lui demande de composer pour elle et lui dira « Tu devrais chanter, toi ». Et c'est là que tout commence pour sa carrière. Avec bonheur, son récit nous mène de chanson en chanson, de théâtre en salle de spectacle, de promos télévisuelles et radiophoniques, de soirées cabaret, de boîtes de nuit, des anecdotes drôles, croustillantes, un vrai kaléidoscope d'humains, en tout genre. Il écrit avec jubilation « Je me demande pourquoi j'ai croisé autant de zinzins durant toute ma vie ». On lira et découvrira aussi une vie privée et sentimentale mouvementée et pour le moins originale. Je vous en laisse la surprise. Des rencontres de voisinage savoureuses et des portraits tendres et inattendus comme les pompiers de Montfort-l'Amaury ou le voisin belge loueur de piano. Et aussi quelques coups de griffe pour le monde du showbiz. Il rebaptise les directeurs artistiques de chez Philips de chef de produit et pend sur le bec des irrespectueux de tout poil. Enfin, au-delà de l'histoire de la naissance de ses chansons, il raconte avec passion sa volonté, son besoin de composer pour lui, pour d'autres. Et c'est aussi là le grand intérêt de cette autobiographie. En plus de sa discographie riche de moult projets originaux, il a composé des musiques de films, de spectacles, divers et variés, mais également la musique d'un défilé de mode au Japon pour un styliste connu, et j'en passe. Une vie foisonnante, des joies, des peines, des belles et folles rencontres, des œuvres excentriques et magnifiques. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il a décidé de ne plus chanter, mais continue à écrire, transmettre et créer. Ouf. Vous trouverez cette géniale autobiographie à la médiathèque Césaire. Et je laisse la parole à Claudie.
Bonjour.
De mon côté, je vais vous faire un petit peu voyager dans la fiction italienne. Voilà. Donc, je vais vous recommander aujourd'hui une romancière italienne, Viola Ardone, qui a connu avec son premier roman, Le Train des Enfants, une reconnaissance immédiate récompensée par de nombreux prix littéraires. Mon coup de cœur, cependant, porte sur son deuxième roman, Le Choix, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Nous sommes en Italie dans les années 60. Oliva, jeune fille de 15 ans, vit avec sa famille dans un petit village sicilien. Elle a eu une enfance heureuse avec ses parents, sa sœur et son frère. C'est une jeune fille pleine d'énergie qui adore lire, aller à l'école, jouer, se promener. Son petit plaisir ? Aller ramasser les escargots avec son père plutôt que de rester faire le ménage et la couture avec sa mère. Elle apprécie tout particulièrement Rosaria, l'institutrice du village, qui apprend à ses élèves à réfléchir sur les us et coutumes qui dirigent les rapports entre filles et garçons. Car ici, dans ce petit village sicilien, les convenances et les lois ancestrales exercent une pression forte sur la vie des habitants. Oliva ne fait pas exception à cette règle. Même si Rosaria, son institutrice, et son amie Liliana bousculent quelques idées reçues. Elle est devenue une très très belle jeune fille qui attire les regards et la convoitise des hommes. En l'abreuvant d'injonctions moralisatrices, la mère d'Oliva essaie de conditionner sa fille pour qu'elle rentre dans le moule des jeunes filles sans histoire et espère ainsi la préserver jusqu'à son mariage. Elle la retire de l'école, car une fille, dit-elle, ne fait pas d'études, mais doit se marier, faire des enfants et rester à la maison. C'est pour Oliva une privation de liberté très forte qu'elle a du mal à accepter, même si elle souhaite faire plaisir à sa mère. Sa mère commence ardemment ses recherches pour lui trouver un mari, pour qu'elle puisse échapper à un éventuel déshonneur qui a déjà entaché la famille avec la sœur aînée d'Oliva. Bien sûr, tout ne se déroulera pas comme prévu. Un jeune homme, très beau, mais un brin arrogant et très sûr de lui, va changer le cours des choses. L'auteur décrit magnifiquement bien tous les personnages de ce roman, tous empêtrés et conditionnés par des lois ancestrales puissantes auxquelles il est difficile d'y échapper. Elle nous rappelle le combat de ces femmes privées de liberté qui aspirent à davantage d'autonomie. Leur courage a pu faire bouger ces lois archaïques qui, il n'y a pas si longtemps que cela, étaient inscrites dans le code pénal italien sous le terme de « mariage réparateur et crime d'honneur ». Oliva sera contrainte de faire un choix que vous pourrez découvrir en lisant « Le choix » de Viola Ardone aux éditions Albin Michel et que vous pouvez trouver à la médiathèque Aimé Césaire. Je passe maintenant la parole à Lison pour un documentaire jeunesse.
Merci Claudie. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un documentaire pour adolescents qui s'appelle Sous nos yeux, écrit par Iris Bray et Myrion Mal qui fait les illustrations. Vous saviez que c'était une femme qui avait inventé le cinéma de fiction ?
Non.
Que seuls 12% des cinéastes sont des femmes ? Qu'il a fallu attendre 2017 pour que le mot clitoris soit prononcé dans une série sur une chaîne américaine pour cause de censure. Dans cet ouvrage destiné aux ados, mais qui peut bien évidemment intéresser les adultes, les autrices s'attaquent au cinéma à travers le prisme du regard que pose ce dernier sur les femmes. À travers plusieurs chapitres, elles répondent à différentes questions. Qui fabrique nos images ? À quoi servent les femmes dans les films ? Comment sont abordés le désir, le sexe ou encore la pornographie ou le viol au cinéma ? Elles abordent dans cet ouvrage clair et très vulgarisateur différents sujets. La notion de male gaze, par exemple, traduisée par regard masculin, ou l'étude du regard porté des réalisateurs et les conséquences de ce dernier sur la façon de filmer, notamment le corps des femmes, mais pas que, les cadrages, les représentations. Ce sujet est abordé avec finesse. Je cite « Le male gaze, ce n'est ni bien ni mal. Les cinéastes ont la liberté de filmer les personnages comme ils et elles le souhaitent. Ce n'est pas l'existence du regard masculin qui doit nous faire réfléchir, mais son omniprésence. » Le test de Bechdel, du nom de sa créatrice, Alison Bechdel, aussi est abordé. Vous connaissez ? Pour qu'un épisode ou qu'une série passe le test de Bechdel, trois critères doivent être réunis. Qu'on y voit au moins deux personnages féminins dont on connaisse le nom. Que deux personnages féminins parlent entre elles. Et que deux personnages féminins parlent entre elles d'autre chose que des personnages masculins. Ce test n'est pas un outil infaillible pour mesurer le sexisme d'un film, mais le fait que 40% des films ne réussissent pas ce test, qui semble de prime abord peu exigeant, est assez éloquent. Surtout quand on sait, comme l'évoquent les autrices, que ce chiffre tombe à 4% lorsqu'on prend les films de réalisatrices. Bref, vous l'aurez compris, peut-être, ce documentaire nous cite beaucoup d'outils, de chiffres et d'études qui nous permettent vraiment de faire un point sur le regard porté sur les femmes dans les films et les séries. Mais il présente aussi l'avantage de ne pas s'arrêter à un constat. Iris Bray et Myrion Mal nous citent beaucoup d'exemples où ce regard change. Elles nous parlent de grandes femmes qui ont changé le cinéma, d'exemples de films et de séries, de réalisatrices les ayant marquées, et concluent l'ouvrage sur un chapitre intitulé « Prêt ou prête à changer de regard ?» avec un programme en trois étapes. 1. Prendre conscience, et ce livre y aide grandement. 2. Pouvoir nommer ce qui nous dérange pour comprendre en miroir ce qu'on a envie de voir au cinéma. Et 3. Être curieux, apprendre à aller chercher d'autres histoires, d'autres récits, d'autres regards. Voilà, vous pourrez retrouver ce documentaire à la médiathèque Camus. Il est aux éditions La Ville Brûle. Voilà, et je vais passer ensuite la parole à Kevin qui va nous présenter de la musique.
Merci Lison. Rebonjour, on va finir cette session de coup de cœur en musique avec du rap français. Je vais vous parler du premier album d'un jeune rappeur, Younes. Vous avez peut-être déjà vu sa petite moustache dans une série diffusée sur Netflix, Drôle, de la réalisatrice de 10%. Eh bien, en plus d'être un très bon acteur, le monsieur rappe et chante avec beaucoup de justesse. Identité remarquable, c'est le nom de l'album, mais aussi du premier morceau qu'on va écouter.
À l'heure où j'écris steak, j'hésite à signer un contrat. Entre les uns et les autres, j'entends tout et son contraire. Entre le daron et la daronne, j'ai pas manqué de fourniture. Entre le tarot et la parole, il manque juste la signature. À l'époque, j'avais 20 ans et des rêves grands comme une grue. Je trouvais les adultes aigris, j'aimais pas leur simagrée. Je voulais pas leur ressembler. Taf de bureau, pas question, je préfère être ressemblé. Je préfère être ressemblé. Je suis français à ce qui paraît, je suis arabe à ce qui paraît. Je suis coincé en vérité, je suis le fils de Snoussi et Fatiha. J'essaie d'apaiser mon cœur, je récite la Fatiha. Y'a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont charbonné. J'ai pas le choix d'être généreux car on m'a grave donné. Et le soir, je demande à Dieu de me pardonner. Si tu kiffes pas Renoir, tu peux te désabonner. Je suis en retard même en visio, je vais percer, j'ai des visions. Je dis ce que je pense comme un idiot, je tourne ma peine en dérision. Je suis pudique dans la vraie vie, mais je dévoile tout sur Vevo. Je vis ma vie comme une série, c'est pas sûr que j'en sois le héros.
Voilà, je vous invite à aller voir le clip de ce morceau de 5 minutes, sans refrain, joliment mis en valeur par un long plan séquence intimiste. Car intimiste, c'est définitivement l'adjectif qui définit cet album. Bien loin du gangsta rap, de l'ego trip, Younes parle de lui, de ses doutes, de ses origines, de sa famille. C'est beau, c'est tendre, à l'image de ce morceau, pour sa grand-mère, dans lequel il chante en arabe.
ميما حبك قلبي وجعني ما نفهمك اني معاكي قولي علاش توحشتك قولي ميما كي كنتي مين اللي كان عندك عمري مين اللي كان عندك احلامك في راسك بحالي ميما perd la tête elle est tombée sur la tête le temps passe ça m'inquiète depuis petit peu je me répète apprends à parler sa langue elle est là mais ma grand-mère me manque. Fais vite car le bateau tend. Elle va pas toujours m'attendre.
Mais pour avoir un bon album, il faut de la diversité. Et ça, Younes l'a compris. Entre ces beaux titres, on a aussi des feats bien fun, du gros rap à l'ancienne et du rap conscient digne des plus grands, avec des thèmes forts. Immigration, violence faite aux femmes, violence policière. En bref, je ne peux que vous recommander cet album, dont les 15 titres sont à retrouver à la médiathèque Césaire. C'était Identité remarquable de Younes, et sur ce, je lui laisse le mot de la fin.
Quand je vois les petits faire du rap, je fais du rap car il y a des choses que je dois dire, des choses qui peuvent pas rester dans mes notes, car on peut pas se contenter de dire que des mondanités. Je rappe vrai, je rappe fort, c'est toute une mentalité, c'est presque une fatalité. Parfois devant le gardien, tu sais, j'hésite à marquer. Cet album sera comme un putain de bon film que t'hésites à mater, car tu sais que ça peut te changer, mais tu sais pas comment. Identité remarquable car je suis pas comme eux. Younes, premier album. Fin de l'histoire.
Prenez soin de vous, c'était les bibliothécaires de Bourg-en-Bresse avec Claudie, Lison, Annie et Kevin.
Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Wouhou !